Voici un bon gros blockbuster pour refermer le 5-7. Frédéric Sigrist, comme d'habitude, c'est l'actualité qui inspire vos choix cinématographiques. Et ce matin, vous vouliez revenir sur la vidéo de Michel Zecler, ce producteur de musique qui s'est fait frapper par des policiers.
Oui Mathilde, parce que je pense qu'il est de mon devoir d'entrer dans ce débat politique. Je ne peux pas rester sans rien dire. En tant qu'artiste, c'est quasiment une obligation morale de m'engager face à un tel fait divers.
Et donc, vous en êtes arrivé à quelle conclusion ?
Faut pas oublier son masque. Voilà. Parce que déjà, 135 euros, ça me semblait beaucoup comme amende venant d'un gouvernement qui, il y a 6 mois, te disait que ça servait à rien. Mais si maintenant, des flics viennent ensuite te casser la gueule chez toi, là, je vais plus jamais l'oublier à la maison, le masque. C'est hyper efficace comme campagne de prévention. Respectez les gestes barrières, sinon, on vous les met dans la tronche. Ceci était un message de Santé publique France. Alors, j'ai montré la vidéo à mes enfants. Je vais vous dire, en classe, ils n'enlèvent plus le masque. D'ailleurs, ils ne le retirent plus du tout. Ils dorment avec, ils se lavent avec. Et je vais vous dire, faire manger des brocolis et du poisson pané à la paille, c'est pas simple, Mathilde.
Oui, j'imagine.
J'ai un voisin qui m'a dit, à propos des manifestations contre l'article 24 et les violences policières, « Ah ben regarde-moi ça, c'est bien la France. Pour manifester contre les forces de l'ordre, il y a du monde. Par contre, quand c'est de la racaille ou des djihadistes qui agressent, il n'y a plus personne. » Oui, parce que j'habite à côté de CNews. Comme je lui ai dit, si un jour mes impôts finançaient des djihadistes, je suis sûr que je serais vachement plus regardant sur leur intégrité morale. Là, pour l'instant, djihadiste, c'est plutôt hors fonction publique. Parce que c'est bien là le problème. On n'a pas le même niveau d'attente morale suivant que l'on a affaire à un policier ou à un serrurier. Parce qu'un serrurier, entre nous, c'est juste un voleur que tu paies pour rentrer chez toi par effraction. J'aime pas trop les serruriers. Un policier, c'est pas pareil. C'est censé être le chignon manquant entre le citoyen et le super-héros. Les enfants jouent aux policiers parce qu'ils rêvent d'arrêter les méchants, pas de frapper des citoyens qui n'ont pas de masque. Alors, il y a évidemment l'uniforme, mais aussi l'être humain qui est dans l'uniforme. Et ça, c'est le sujet d'un des plus grands films de science-fiction jamais réalisés, Robocop. Les amateurs de bande originale de films, si ce thème vous rappelle celui de Conan le Barbare, c'est normal, c'est l'incroyable Basil Poledoris qui les a composés tous les deux. Alors Robocop, c'est un film réalisé par un génie européen qui a le don d'avoir souvent eu raison trop tôt, Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, c'est Robocop bien sûr, mais c'est aussi Basic Instinct, Total Recall, Starship Troopers, Showgirls, Black Book, que des films que vous ne trouverez jamais sur Disney+. Vu que Disney+, dans Splash, déjà le film, ils ont allongé les cheveux d'une sirène pour pas qu'on voit ses fesses, alors vous imaginez un film de Verhoeven sur Disney+, c'est un congrès de Chewbacca. Dans Robocop, en 2043, la ville de Détroit, aux États-Unis, est gangrénée par la criminalité et par des institutions corrompues. Imaginez, c'est Marseille tenue par les Balkany. L'OCP, l'Omnicartel des produits, un conglomérat militaro-industriel qui vend aussi bien des armes que des chaînes de télé, l'OCP, c'est un peu le rêve humide de Vincent Bolloré, décide de lancer un appel d'offres pour créer un robot policier qui soit opérationnel 24 heures sur 24. Un policier qui dormirait pas, qui mangerait pas, mais qui serait diablement efficace, une arme à la main. Alors, deux projets s'opposent, ED-209, un robot qui, technique oblige, reste sujet aux bugs, et un cyborg mi-homme, mi-machine, Robocop, qui, dans l'idée, doit se construire sur le corps d'un officier tombé en service. Et vu qu'en 2043, on n'est pas moins cynique qu'en 2020, on envoie donc des policiers patrouiller dans les quartiers les plus malfamés de Détroit dans l'espoir que l'un d'entre eux se fasse tuer et avoir le matériel nécessaire à la fabrication de Robocop. Et ce qui devait arriver arriva. L'officier Alex Murphy, bon flic, bon père de famille, est abattu dans une scène qui ferait passer la Passion du Christ pour une parade d'Euro Disney. Dans Robocop, les policiers, des smicards en uniforme, sont entre le marteau et l'enclume d'une lutte de pouvoir entre criminels de la rue et criminels à col blanc. Pour Verhoeven, sa crainte, c'est qu'un policier du futur ne soit plus qu'un officier déshumanisé, surarmé, qui tue et estropie sur commande. Alors certes, on aura amélioré son équipement, mais on aura négligé tout ce qui pouvait faire de lui un être humain. Preuve en est, dans le film Robocop, le personnage principal ne mange plus que de la nourriture pour bébé, achevant de faire de lui un nouveau-né totalement dépendant du système. Là où Verhoeven transcende son propos, c'est en montrant que Robocop ne devient pas un meilleur flic en étant plus armé ou plus violent, non, mais en se souvenant de ce qu'il a été, en se souvenant de son nom Murphy. Robocop nous montre qu'une société qui en demanderait toujours plus aux forces de l'ordre, par exemple contrôler des caddies pour savoir si les protections périodiques sont essentielles ou non, encadrer des manifs, contrôler des attestations avec des armes toujours plus dangereuses, serait une société où l'uniforme finirait par devenir plus important que celles et ceux qui le portent. Quitte malheureusement pour certains à oublier leur humanité. Heureusement, Mathilde, Robocop, c'est qu'une fiction.
Et toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé, etc., etc., bien sûr. Merci beaucoup, Frédéric Sigrist. C'était la chronique Blockbuster à retrouver sur franceinter.fr.